Europe.
Mais d'abord le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes peut-être encore à l'heure du petit-déj, mais savez-vous vraiment ce qui se passe une fois votre repas avalé ? Sur Europe 1, ce matin, on a décidé d'ouvrir le dossier des intestins. Sans eux, la digestion serait impossible, organe encore mystérieux dont plusieurs chercheurs français veulent percer les secrets. Et pour ça, l'INRAE, les hôpitaux de Paris et AgroParisTech ont lancé une vaste étude baptisée French Gut, ça veut dire intestin français. Bonjour Yasmine Akatou.
Bonjour.
Vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. On a tous des intestins différents, il faut le préciser. L'enjeu pour ces scientifiques, c'est de parvenir à cartographier les bactéries qui cohabitent dans nos boyaux, parce que mieux les comprendre, c'est s'assurer une meilleure santé.
Oui, notre deuxième cerveau, comme le surnomment les scientifiques, a un rôle prédominant sur notre bien-être général. Les milliards de micro-organismes qui peuplent notre système digestif influent sur notre sommeil, sur la survenue de maladies comme Parkinson, Alzheimer ou encore le développement de cancers. Le but sera de comprendre à quel point le microbiote influe sur certaines pathologies. À terme, les connaissances sur nos intestins permettront d'agir de manière préventive, explique l'un des responsables de l'étude, Robert Benamouzig. Il est chef du service gastro-entérologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
L'objet du French Gut, ça va être un, de pouvoir faire des diagnostics anticipés et surtout d'identifier, même avant le développement de la pathologie, des situations qui prédéterminent de façon à essayer d'intervenir. Donc c'est aussi, pourquoi pas, du traitement dans le sens de rééquilibrer du microbiote qui pourrait être pathologique en microbiote qui pourrait être sain.
Bon, pour mener cette étude, Yasmina, il faut des dons de sel. Les chercheurs espèrent en obtenir 100 000 d'ici 2027. Concrètement, comment on peut participer ?
Eh bien, vous pouvez aider la science depuis chez vous. Il suffit de vous rendre sur le site lefrenchgut.fr. Après avoir répondu à quelques questions sur vos habitudes alimentaires, vous recevrez chez vous le matériel nécessaire pour le prélèvement, comme un kit pour le dépistage du cancer colorectal. Tous les Français majeurs sont invités à participer, quel que soit leur état de santé. Certaines conditions sont à respecter, comme ne pas avoir subi une coloscopie ou pris d'antibiotiques 3 mois avant le don.
Yasmina Katou.
64 ou 65 ans, l'âge de départ à la retraite n'en finit plus d'alimenter les débats.
Hier, à l'issue de leur réunion avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, les 5 centrales syndicales ont été claires. Si le gouvernement fait passer sa réforme en force dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le dialogue sera rompu.
À demain, c'est à Matignon que le sujet sera débattu. Elisabeth Borne va recevoir les chefs de groupe parlementaires.
Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Jacques, cette réforme des retraites et le calendrier que veut imposer l'exécutif provoquent la colère des syndicats, des oppositions et divise même au sein de la majorité. Bon, dans ce contexte, l'exécutif pourrait-il enterrer cette réforme ?
Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose en Macronie. C'est compliqué, avoue un conseiller de Matignon. Emmanuel Macron a fixé le cap la semaine dernière. C'est une réforme qui s'impose, selon lui. Mais voilà, le patron du Modem, François Bayrou, s'est dit opposé à tout passage en force. Et depuis, les voix dissidentes se multiplient jusque chez les marcheurs. Alors oui, il y a une marge de manœuvre pour que la réforme entre en vigueur à l'été 2023. Il y a la possibilité pour l'exécutif de l'intégrer au projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais à quel prix ? Elisabeth Borne n'a aucune certitude d'obtenir la majorité sur un tel amendement. Elle n'aurait alors d'autre choix que de recourir à l'article 49.3 pour faire passer le texte sans débat. Une option qui signerait l'arrêt de mort du CNR, le Conseil National de la Refondation. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, menace d'en claquer la porte en cas de réforme à marche forcée. Mais Emmanuel Macron a-t-il vraiment envie d'aller au clash en pleine crise inflationniste et énergétique? Pas si sûr. Le spectre du passage par voie d'amendement a tout d'un ballon d'essai, décrypte un conseiller ministériel, comme si l'enjeu pour Emmanuel Macron était davantage d'afficher sa volonté réformatrice pour mieux dénoncer la situation de blocage.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Un policier sérieusement blessé hier soir à Anzin dans le Nord.
Il a été percuté par un véhicule qui aurait refusé un contrôle des douanes et pris la fuite, touché au dos et aux jambes. Son pronostic vital n'est pas engagé. Selon le porte-parole du syndicat des commissaires de police, Mathieu Vallet, le conducteur interpellé transporte de l'héroïne.
Europe 1, 8h06, chasser le quotidien, il revient, le quotidien, chasser le naturel ou le quotidien,
le
il revient,
quotidien,
non, le quotidien, il revient au galop. Après 10 jours de deuil et les obsèques de la reine Elisabeth II, les Britanniques sont à nouveau confrontés ce matin à ce qu'ils appellent la cost living crisis, la crise du pouvoir d'achat.
Et oui, eux aussi, ils doivent y faire face. Avant la mort de la reine, on s'en souvient, le pays était déjà au bord de l'explosion sociale. Les grèves ont été suspendues le temps des adieux. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres en direct avec nous ce matin. Pour les Britanniques que vous avez rencontrés, les difficultés économiques, c'est une réalité, elles sont dans toutes les têtes.
Oui, effectivement, c'est bien ce que j'ai ressenti hein, hier soir en discutant avec quelques-uns d'entre eux, notamment autour de Hyde Park à Londres. Il y a ici, vous le savez, une inflation à plus de 10%, une crise énergétique galopante, des mouvements sociaux très durs sur les salaires, on l'a vu dans les transports il y a quelques semaines. Bref, les problèmes vont ressurgir, et cela très vite selon Eileen, qui d'ailleurs a suivi hier ses obsèques avec une certaine distance.
Ils n'ont jamais disparu, les problèmes demeurent, la monarchie n'y a jamais rien changé. C'est le problème du gouvernement, et celui-là, il est affreux.
Et ce retour au réel, c'est aussi ce qui inquiète Kathleen. Elle, c'est une jeune retraitée qui s'interroge sur l'avenir de son pays.
Ce sont des temps tellement difficiles pour le Royaume-Uni. Et ce qui me chagrine, c'est qu'Elisabeth ne pouvait pas mourir à un pire moment. Maintenant, on ne sait pas trop dans quelle direction va le pays. J'espère que ce sera la bonne.
Et pourtant, ce mouvement d'union nationale autour de la reine et du nouveau roi, Nick, lui, va y voir le signe que le royaume, finalement, est capable de surmonter toutes les crises.
Les gens ont vu ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Et peut-être qu'ils vont réfléchir sur ce que l'union du pays peut apporter. Et ils se diront, oh, peut-être qu'il y a de la force et de l'unité dans ce pays.
En attendant, le journal The Sun, ce matin, fait remarquer que ces obsèques ont coûté plus de 10 millions de livres, alors que les Britanniques, écrit-il, risquent d'avoir faim et froid cet hiver. C'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, 6 millions d'entre eux vont recevoir une aide au pouvoir d'achat de 150 livres, environ 170 euros. Pas sûr que cela éteigne ce que l'on appelait les grèves de la colère, qui avaient éclaté à la fin de l'été, avant effectivement d'être suspendues à la mort de la reine.
Merci Lionel Gougelot, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
Et à New York, le discours d'Emmanuel Macron attendu cet après-midi devant la 77e Assemblée Générale des Nations Unies.
Hier soir, le chef de l'État a dîné en tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ce soir, il détaillera ses priorités diplomatiques, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui également avec son homologue iranien, alors que l'accord sur le nucléaire a de moins en moins de chances d'être conclu et que d'importantes manifestations se tiennent dans le pays après la mort d'une femme détenue par la police des mœurs.
Allez, on passe au football. Les Bleus sont à Clairefontaine à deux jours d'un match de Ligue des Nations qui les opposera à l'Autriche.
Et dimanche, ils affronteront le Danemark. Le tout à vivre en direct, évidemment, dans Europe 1 Sport. Mais dans quel état d'esprit sont nos Bleus ? Bonjour Cyril de la Morinerie.
Bonjour.
En direct de Clairefontaine pour Europe 1. Les Bleus, bousculés par l'affaire Pogba, privés de beaucoup de joueurs blessés et marqués hier par le bras de fer entre Kylian Mbappé et la Fédération Française de Football.
Oui, franchement, on a connu une atmosphère plus sereine pour préparer la Coupe du Monde. Évidemment, en apparence, les joueurs ont le sourire. J'ai pu le constater hier à l'entraînement. Mais sans coulisses, il y a quelques tensions, notamment, vous l'avez dit, sur le fameux droit à l'image. Kylian Mbappé, qui a boycotté hier la photo, a finalement gagné son bras de fer à l'issue d'une réunion à Clairefontaine avec Noël Le Graët. La fédération s'engage à revoir la convention qu'il a liée avec les joueurs. Kylian Mbappé, qui souhaite avoir un droit de regard sur les entreprises choisies, participera aux opérations marketing aujourd'hui.
Alors, on le disait, Cyril, beaucoup de joueurs sont aussi forfaits pour les matchs à venir. On est à deux mois pile de la Coupe du Monde. La situation est très compliquée pour le sélectionneur. Là, hein.
C'est une hécatombe. Plus d'une dizaine de joueurs forfaits, Benzema, Pogba, Kanté, Kimpembe ou encore Rabiot notamment, et même le capitaine Hugo Lloris. Didier Deschamps comptait faire des réglages avant la Coupe du Monde, et bien c'est raté à la place. Il va essayer de nouveaux joueurs, parmi lesquels l'attaquant Randal Kolo Muani, à la fois surpris et heureux d'avoir été appelé.
Je m'y attendais pas du tout. Pour moi, ouais, c'est très très fort, parce que là, t'as une nation qui est derrière toi, qui a deux étoiles sur le maillot, donc pour moi, là, c'est plus qu'un rêve, là, c'est plus qu'une Ligue des Champions, je pense.
Et un autre joueur espère aussi en profiter, c'est Olivier Giroud, l'éternel revenant qui n'est plus qu'à 3 buts d'égaler le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Thierry Henry.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journée.